André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur.
Bienvenue dans Théâtralité. Aujourd'hui, nous poursuivons notre cycle d'émissions sur l'œuvre de Marcel Pagnol avec nos amis comédiens, Philippe Merlan. Bonjour Philippe.
Bonjour André, bonjour Bernard, bonjour à tous.
Bernard Wynne, bonjour Bernard.
Bonjour André, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous pour nous faire partager vos lectures de La femme du boulanger, le célèbre film et ensuite la pièce de Marcel Pagnol dont nous allons parler aujourd'hui. Réalisé en 1938 par Marcel Pagnol, La femme du boulanger est plus qu'une comédie provençale charmante, c'est un conte moral, un portrait d'humanité, un chef-d'œuvre du cinéma français de l'entre-deux-guerres. Inspiré d'une nouvelle de Jean Giono, le film réussit l'exploit de faire d'un fait divers minuscule, la fuite d'une femme et la tristesse d'un boulanger, une fresque à la fois drôle, poétique, cruelle et profondément humaine. L'histoire de la femme du boulanger commence dans un petit village de Provence où un nouveau boulanger, aimable Castanier, s'installe avec sa jeune épouse, Aurélie. Mais à peine installée, la jeune femme s'enfuit avec un berger, laissant son mari effondré, humilié et incapable de cuire du pain. Privé de baguettes et de brioches, le village tout entier entre alors en ébullition. Ce point de départ modeste devient le moteur d'un récit à la fois comique et touchant, où la communauté va tout faire pour amener la boulangère au bercail. Autant pour retrouver le pain que pour réparer une blessure morale. Comme souvent chez Pagnol, La femme du boulanger est un film de personnages tous croqués avec une vivacité inégalée. Aimable, interprété par Rému, est le cœur du récit. Il n'est pas un héros classique, c'est un homme simple, sensible, un peu ridicule, profondément humain. Sa douleur d'homme trompé est à la fois déchirante et pudique. Et Rému y insuffle une vérité bouleversante, sans jamais tomber dans le pathos. Ne l'oublions pas, Pagnol vient du théâtre. C'est donc tout naturellement que ces personnages ressortent avec le plus bel éclat. Autour de lui gravitent toute une série, toute une galerie de figures haut en couleur. L'instituteur anticlérical, le curé diplomate, le marquis Autain, les commères du village, etc., etc. Tous participent à une chorale de voix discordantes, mais unies par un objectif commun, rétablir l'équilibre. Cette collectivité vivante est filmée avec tendresse, mais sans complaisance. Chacun a ses petits travers, ses hypocrisies, mais aussi sa part de générosité. Pagnol réussit ici un tour de force, faire de ce village une allégorie du monde humain. La silhouette réussit à cristalliser nos personnalités les plus incroyables. Voici un premier extrait. L'instituteur, Philippe, et le curé, Bernard.
Pardon, monsieur l'instituteur, je désire vous dire deux mots si vous n'y voyez pas d'inconvénient.
Je n'en vois aucun. D'un chien regarde bien un évêque, monsieur le curé peut donc parler à monsieur l'instituteur.
Malgré le ton désobligeant de votre réponse, les devoirs de ma charge m'obligent à continuer cette conversation.
Permettez, vous dites que je vous ai parlé sur un ton désobligeant, et je reconnais que c'est vrai. Mais je tiens à vous rappeler qu'au moment où je suis arrivé ici, c'est-à-dire au début du mois d'octobre, je vous ai rencontré deux fois le même jour. La première fois, c'était le matin.
Sur la place de l'église.
C'est exact. Je vous ai salué, vous ne m'avez pas répondu. La deuxième fois, c'était...
À la terrasse du cercle, vous étiez assis devant un grand verre d'alcool.
Un modeste apéritif.
Si vous voulez. Enfin, c'était de l'alcool.
Soit. Je vous ai encore salué en ôtant mon chapeau.
C'était un chapeau melon.
C'est exact aussi. Vous ne m'avez pas répondu. Pourquoi ?
Parce que je ne vous avais pas vu.
Quoi ?
Et je ne vous avais pas vu me saluer parce que je n'ai pas voulu vous voir.
Et pour quelle raison ? J'arrivais ici, vous ne m'aviez jamais vu. Je vous salue très poliment, vous détournez la tête. Vous m'avez donc fait un affront sans me connaître.
Oh, monsieur, je vous connaissais.
Ah, vous aviez reçu une fiche de l'évêché ?
Oh, pas du tout, monsieur. Monseigneur a des occupations et des travaux plus utiles et plus nobles que ceux qui consisteraient à remplir des fiches sur le caractère et les mœurs de chaque instituteur laïque. Ce serait d'ailleurs un très gros travail et peu ragoûtant. Non, monsieur, je n'ai pas reçu votre fiche et je n'avais pas besoin de la recevoir parce que vous la portiez sur vous.
Ah, j'ai une tête de scélérat.
Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Non, monsieur, non, vous n'avez pas absolument une tête de scélérat, non. Et puis même avec une tête de scélérat, un homme peut se racheter par la foi et par la stricte observance des pratiques recommandées par notre Sainte Mère, l'Église. Mais il ne s'agit pas de votre tête. Ce qui m'a permis de vous démasquer du premier coup, c'est le journal qui sortait de votre poche. C'était le Petit Provençal. Ne riez pas, monsieur, je l'ai vu. Vous lisiez le Petit Provençal.
Mais oui, je lis le Petit Provençal et je suis même abonné.
Abonné, c'est complet.
Ben, vous ne voudriez pas que je lise la croix?
Mais si, monsieur, je le voudrais. Mais je vous estimerais bien davantage, monsieur, si vous lisiez la croix. Vous y trouveriez une morale autrement nourrissante, autrement succulente que les divagations fanatiques de journalistes sans Dieu.
Ah ben c'est pour ça que vous m'avez arrêté, pour me placer un abonnement à la croix.
Non, monsieur, je vous ai arrêté pour vous rappeler vos devoirs. Non pas envers vous-même, car vous me paraissez peu disposé à songer à votre salut éternel, mais vos devoirs envers vos élèves, ces enfants que le gouvernement vous a confiés, peut-être un peu imprudemment.
Il est certain que le vieillard que vous êtes peut donner des conseils aux gamins que je suis.
En effet, monsieur. Quoique nous soyons à peu près du même âge, je crois que la méditation et l'évélation quotidienne de l'âme par la prière m'ont donné plus d'expérience de la vie que vous n'avez pu en apprendre dans vos manuels déchristianisés. Vous êtes, je crois, tout frais émolu de l'école normale.
Vous êtes, je crois, tout récemment éclos du grand séminaire.
Enfin, peu importe. Ce que j'ai à vous dire est très grave. Vous avez fait l'autre jour, avant-hier exactement, une leçon sur Jeanne d'Arc.
Eh oui, ce n'est pas que ce soit amusant, mais c'est dans le programme.
Bien. À cette occasion, vous avez prononcé devant des enfants les phrases suivantes. Jeanne d'Arc était une bergère de Don Rémy. Un jour qu'elle gardait ses moutons, elle crut entendre des voix. C'est bien ce que vous avez dit.
C'est très exactement ce que j'ai dit.
Songez-vous à la responsabilité que vous avez prise quand vous avez dit « cru » entendre.
Je songe que j'ai justement évité de prendre une responsabilité. J'ai dit que Jeanne d'Arc crut entendre des voix, c'est-à-dire qu'en ce qui la concerne, elle les entendait fort clairement. Mais en ce qui me concerne, je n'en sais rien du tout.
Comment vous n'en savez rien?
Ma foi, monsieur le curé, je n'y étais pas.
Comment vous n'y étiez pas?
Et ma foi, non. En 1431, je n'étais même pas né.
Oh, n'essayez pas de vous en tirer par une pirouette. Vous n'avez pas le droit de dire « cru entendre ». Vous n'avez pas le droit de nier un fait historique. Vous devez dire « Jeanne d'Arc entendit des voix ».
Mais dites donc, là, il est quand même très dangereux d'affirmer des choses pareilles. Même s'il s'agit d'un fait historique, il me semble me rappeler que lorsque Jeanne d'Arc, devant un tribunal présidé par un évêque qui s'appelait Cochon, déclara qu'il avait entendu des voix. Ce cochon-là la condamna à être brûlée vive, ce qui fut fait à Rouen sur la place du marché. Et comme malgré ses voix, elle était combustible, ben, la pauvre bergère en mourut.
Réponse et langage bien digne d'un abonné du Petit Provençal. Je vois, monsieur, que je n'ai rien à attendre d'un esprit aussi borné, aussi grossier que le vôtre. Je regrette d'avoir engagé une conversation inutile et qui m'a révélé une profondeur de mauvaise foi que je n'aurais jamais imaginée.
Oh oui, mais en somme, vous êtes furieux parce que j'ai parlé de Jeanne d'Arc qui, selon vous, vous appartient. Mais vous-même, monsieur le curé, il vous arrive de piétiner mes plates-bandes. Ainsi, vous avez dit aux enfants de catéchisme que je me trompais et qu'en histoire naturelle, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas que trois règnes, qu'il y en avait quatre.
Mais parfaitement, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain, ce qui est scientifiquement démontré.
Non, il est scientifiquement démontré que le règne humain est une absurdité.
Vous vous considérez donc comme un animal?
Sans aucun doute.
Je vous crois trop savant pour ne pas admettre qu'en ce qui vous concerne, vous avez certainement raison. Permettez donc que je me retire sans vous saluer. Car je ne salue pas les animaux.
Et vous dites donc là, qu'est-ce que vous croyez être un espèce de prégadiou?
Bah, des rétros, Satanas!
Aurélie, la femme du boulanger, a disparu. Aimable s'inquiète et la cherche partout. La rumeur enfle dans le village. Antonin l'a vue partir à cheval avec un berger. Et finalement, c'est le marquis qui se charge d'en informer le boulanger. Voici un deuxième extrait. Avec le marquis, Bernard et le boulanger, Philippe.
Ferme la porte. Eh bien, mon pauvre aimable, tu es au courant?
Au courant de quoi?
Ta femme.
Ah, c'est de ça que vous voulez parler. Ben oui, je suis au courant. Elle est allée chez sa mère. Elle m'a laissé un petit papier que le courant d'air a dû emporter. Nous le cherchons d'ailleurs, justement. Vous avez des nouvelles, vous ?
Eh bien, mon vieux, j'ai des nouvelles. Elles sont terriblement précises. Ta femme est partie avec Dominique, mon premier berger.
Allons donc, monsieur le marquis, ce n'est pas raisonnable ce que vous dites. Et qui est-ce qui a pu vous raconter ça ?
Ta femme et mon berger sont partis ce matin à 5 heures. Et pour s'enfuir, ils ont volé Scipion, mon meilleur cheval.
À cheval ? Il aurait emporté à cheval ? Eh bien non, il en aurait dû touper celui-là, de la faire monter à cheval. Mais dites, et si elle tombait et qu'elle se casse une jambe ? Et puis alors, où serait-il en ce moment ?
Ça, on n'en sait rien.
Et qu'est-ce qu'ils auraient bien pu aller faire ensemble ?
L'amour, tout bêtement.
Allons donc, monsieur le marquis. Ils se sont vus pour la première fois hier. Mais vous ne savez pas qu'Aurélie, il a fallu que je lui fasse la cour pendant 3 ans, avant qu'elle me dise oui, et encore, c'était pour l'épouser.
Ça n'est peut-être pas la même chose.
Oh mon Dieu, ça non. Alors, si vous la connaissiez, Aurélie, vous penseriez à tout sauf à ça. Écoutez, nous sommes entre hommes, je peux vous faire des confidences. Eh bien, c'est une femme que ces choses de l'amour, ça ne l'intéresse pas du tout. Ah, parlez-lui de vendre du pain, de faire sa caisse, de broder des combinaisons, mais ne lui parlez pas d'amour, elle ne vous écouterait même pas.
Ce n'est pourtant pas toi qui lis ces livres-là.
Oh, bien sûr que non, c'est elle. Ah, des romans d'amour, elle en lit tout le temps, mais c'est parce qu'elle les trouve comiques.
Qui t'a dit ça ?
Je l'ai vu, tenez un jour, pendant que je préparais mon levain, c'était un hiver, hein. Elle était assise près du four sur un sac de farine. Elle lisait un livre et ça avait l'air de l'intéresser. Et tout d'un coup, elle lève la tête. Elle me regarde et elle se met à rire d'une force qu'elle ne pouvait plus s'arrêter. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu lis ? Elle me fait un roman d'amour. Et c'était vrai, c'était écrit sur la couverture. Elle a tellement ri, monsieur le marquis, que du rire, elle a pris une crise de nerfs et qu'après, elle en a pleuré toute la nuit.
Oui, ça lui avait paru tellement rigolo. Les femmes sont compliquées.
Oh là 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 ! Pire qu'une montre, tiens. Mais elle, moi, je la connais. Et je dois vous dire qu'avant de l'épouser, j'ai bien réfléchi pour la comprendre. N'est-ce pas ? Quand on a plus de 40 ans et qu'on se marie avec une fille de 20 ans, il faut prendre ses précautions. Vous avez remarqué qu'elle n'écoutait pas volontiers les jeunes gens, ils ne lui plaisaient pas. Et d'abord, si elle avait aimé les beaux garçons, est-ce qu'elle se serait mariée avec moi ?
L'un n'empêche pas l'autre.
Mais non, je ne suis pas jolie, je le sais. Si on faisait le compte du tout, au fond, j'en vaux bien d'autres. Seulement moi, ce que j'ai de bien, ce n'est pas à la devanture. Vous me comprenez ? Ce serait plutôt à l'intérieur du magasin.
Ça, boulanger, je commence à le croire.
Mais pour en revenir aux jeunes gens, figurez-vous que 2 jours avant notre mariage, elle me dit « Aimable, je dois te prévenir qu'avant de te connaître, j'ai eu un amant. » Ça m'a choqué, vous me pensez, mais elle me fait « C'était un jeune homme des environs, très grand, très beau, avec une bonne situation. C'était un danseur extraordinaire. » Mais je lui dis « Et où est-il ?» Et bien elle me fait « Il est mort. » Et c'était vrai. Eh bien, elle m'a dit ça avec un calme, un sang-froid, quelque chose de glacé. Alors je l'ai épousé quand même, parce que je me suis dit, aimable, tu ne risques rien, il est mort, hein ? Et par conséquent, t'es beaucoup plus beau que lui.
Parfaitement raisonné.
Et même, j'ai presque été content de cette histoire, parce que sa façon de parler du pauvre mort me faisait croire qu'elle n'avait pas de tempérament. Eh bien, l'expérience m'a prouvé que j'avais raison. Quand je l'embrasse, se laisse faire, sans dégoût, mais sans plaisir. Hein. Une porte ressentirait plus d'émotion. Et vous savez, je vous en parle savamment, je suis son mari depuis 5 ans. Tout ça pour vous dire, monsieur le marquis, que malgré qu'elle soit belle et élégante, qu'on ait tant de plaisir à la regarder et qu'elle semble faire pour l'amour, eh bien l'amour n'est pas fait pour elle.
En somme, ce serait une magnifique fleur sans parfum ?
Vous l'avez dit, monsieur le marquis, une merveilleuse fleur sans parfum.
C'est peut-être toi qui es enrhumé ?
Moi ? Oh, pas plus. Jamais un rhume, jamais une angine. Et puis, c'est pas ça qui pourrait refroidir une femme. Non, non, votre berger, là, je n'y crois pas.
Il n'y croit pas. Alors le marquis appelle Esprit, un autre berger, qui confirme le fait. Si la maison était tombée sur la tête du boulanger, elle l'aurait peut-être tué complètement, mais ça ne lui aurait pas fait autant de mal. Il ne veut pas le croire. Il décide de noyer son chagrin dans l'alcool. Et voici un troisième extrait avec toujours Philippe, le boulanger, et Maillefer, Bernard.
« Oh, boulanger, est-ce qu'il paraît que tu as soif ? Une bouteille d'un lit, dis donc. Tu n'y vas pas de main morte. »
« Ce n'est pas que j'ai tellement soif, non. Je n'ai pas vraiment soif. Seulement, je pense à tout ça, tu comprends. Et puis, je viens de rencontrer le papé. Il a vu ma femme ce matin qui partait avec le berger. Il est gâteux, le papé, mais enfin, ça fait le troisième témoin. Alors, on a beau avoir du bon sens et de la confiance, on finit quand même par s'imaginer des choses, hein. Ça tourbillonne tout, tu es là-dedans, tu vois. Alors, je me suis dit, je vais boire un grand coup pour être gai. Ça vaut mieux que d'aller se noyer.
Tu as raison, va, boulanger. Prends ta cuite, ça te soulagera. Hermine, apporte-lui son litre. Nous irons le coucher après.
Je suis été deux fois à la messe d'aujourd'hui. Et la deuxième fois, le curé a parlé de ma femme. La pécheresse l'a dévergondée. L'avertissement du Seigneur est pâté un coup fin. Alors, lui, il trouve que c'est très bien comme ça. Il dit que c'est un bon exemple pour les autres maris du village.
Oh, il est fou, ce curé. Moi, je l'ai dit le premier jour, hein. Au fond, l'idée qu'on peut perdre sa femme en sachant qu'elle n'est pas malheureuse, ça serait plutôt encourageant.
Et il est dit que les autres maris, ça va les faire réfléchir. Ma foi, moi... C'est à moi que le malheur est arrivé, et ça ne m'a pas fait réfléchir du tout. Au contraire, ça m'empêche à la vôtre.
Alors, boulanger, tu es cocu ?
Moi ? Oh que non ! Ça, c'est un mot rigolo, hein. Un mot pour quelqu'un de riche. Moi, si c'était vrai, je ne serais pas cocu. Je serais malheureux. Ce n'est pas pareil, tu comprends ? À la tienne, Maillefer.
Va, va, ils reviendront d'ici 3 ou 4 jours. Mais... C'est forcé, hein, quand on n'a pas d'argent, hein. Dis, aimable, à quelle heure il sera prêt, le pain ?
Le pain ? Quel pain ?
Notre pain, le pain que tu fais.
Ah, du pain ? Ben, il n'y en a pas.
Tu n'as pas fait la deuxième fournée ?
Non.
Peu cher, tu n'as pas eu la force ?
Oh, la force, je l'aurais eu, mais j'ai pas eu l'envie.
Tu en feras cet après-midi ?
Ni cet après-midi, ni demain, ni après-demain, ni jamais. Moi, c'est pour ma femme que je pétrissais. Je faisais d'abord son pain pour elle, et après, puisque j'y étais, je faisais celui des autres. Et celui des autres, ce n'était pas du pain, c'était de l'argent pour elle. Tu me comprends ? Mais maintenant, si elle est partie, eh bien, du pain, je n'en ferai plus.
Alors, à cause de ta femme, nous allons tous manquer de pain.
Maillefer, on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. On ne peut pas être en même temps cocu et boulanger. À la tienne, Maillefer.
Le boulanger est désespéré. Mais dans le village, si on a beau se moquer de lui et faire des chansons sur son cocufiage, ce n'est pas possible de se passer de son pain délicieux. Alors, tout le monde se mobilise, se retrouve sur la place du village et s'unit pour retrouver la belle boulangère. On organise les recherches. Voici un quatrième extrait où on retrouve les deux ennemis, le curé, Bernard, et l'instituteur Philippe. Pour aller chercher la femme du boulanger dans les marais, le marquis suggère que l'instituteur porte le curé sur son dos. Si monsieur l'instituteur consent à servir de monture à un prêtre, ce sera un hommage, involontaire peut-être, mais un hommage à la supériorité du clergé. Le curé est outré.
Allons donc, ce serait ridicule.
Moi, je veux bien.
Vous m'avez déjà dit, en effet, que vous considériez comme un animal.
Ce serait plutôt un petit sacrifice à la douleur du boulanger. Et ce sacrifice serait fait de bon cœur pour soulager la peine d'un de mes semblables, sans aucune idée de récompense et sans aucun espoir de paradis.
Qu'en savez-vous ?
Bah, je sais bien que je n'irai pas au paradis.
Est-ce que vous croyez que votre bêtise vous met à l'abri de la bonté de Dieu ?
Je croyais que les hérétiques et les incroyants tombaient en enfer.
Mais l'enfer, mon pauvre ami, vous y êtes. Vous y êtes en ce moment. Vous menez une vie étroite et dure, sans lumière de la foi, sous un ciel creux où l'on ne voit que des avions et des nuages. Une vie que vous croyez limitée par une mort aveugle et sourde. Une mort noire, une mort totale. Une mort qui ne va pas plus loin que la puanteur et la pourriture. C'est ça, l'enfer, pauvre égaré.
Je ne trouve pas ça si mauvais.
Et comment pouvez-vous juger de votre malheur puisque vous n'avez jamais connu le bonheur ? Qu'en savons-nous ? Au jour de la mort de l'incroyant, il arrive peut-être sur les portes du ciel, bouleversé par la révélation de notre vie, et devant Dieu, dans toute sa gloire, il va se jeter à genoux, écrasé par l'horrible attente du châtiment. Et il gémira. « Seigneur, qu'allez-vous me faire ?» Et le Seigneur dira « Rien, mon enfant, approche-toi. J'essaierai de te consoler d'avoir vécu si longtemps sur la terre dans l'absence de ton Créateur. » Le châtiment de l'incroyant, ce sera peut-être le pardon de Dieu, le pardon total, humiliant, éblouissant, divin. Et vengeance du Seigneur sera la déchirante révélation de sa bonté.
On les retrouve plus tard dans le Marais. Le curé, juché sur les épaules de l'instituteur, et celui-ci est au milieu du marais, il a de l'eau jusqu'aux fesses. Le curé relève ses pieds qui touchent presque la surface de l'eau.
« Ne me serrez pas les côtes comme ça, mon vieux, et puis vous me mettez vos souliers sous le nez. »«
C'est que la position est fort incommode, cher ami. »
« Oui, c'est ça, plaignez-vous. Vous, vous ne portez aucun poids.
Hein. »« Si, cher ami, je porte le poids de ma responsabilité. Et de plus, vous avez dans le dos un os qui m'incommode fort. »«
Non, bah, excusez-moi, je le ferai enlever pour la prochaine fois. »«
Je vous en serai bien reconnaissant. Avancez encore de quelques pas et puis nous essaierons quelque chose. »«
Une prière ?»«
Les prières sont faites, mon cher ami. Nous essaierons un appel. »
« Ah, quel métier, non d'une pipe !»«
Oui, d'une pipe, c'est mieux. Cocotte, encore quelques pas. »«
Mon vieux, moi, je t'avertis que je commence à m'enfoncer. »«
Vas-y quand même, mais surtout ne me lâche pas. Ah, je vois le berger. »
Le curé, l'instituteur et Maillefert ramènent Aurélie, la boulangère, au village. Le curé lui fait la morale et tout le monde est satisfait car le boulanger accepte de se remettre à faire son pain. Et nous en arrivons à la scène finale de cette pièce, la scène de la pomponnette. Aurélie reste debout contre la porte qu'elle vient de fermer. Elle lève les yeux. Au fond, devant le four, il y a Aimable qui la regarde. Après un assez long silence, enfin, Aurélie parle. Elle lui demande pardon. Lui a été inquiet, mais il est heureux de l'accueillir et lui a préparé un bon repas avec un petit pain en forme de cœur. Elle se sent coupable et a de grosses larmes. Il prépare son pain.
Écoute, il faut que je t'avoue quelque chose. Depuis que t'es parti, je ne me suis pas bien conduit. N'aie pas peur, ce n'est pas bien grave. Mais enfin, comme j'étais seul, j'allais profiter pour boire des apéritifs. Eh oui, c'est une envie qui m'est venue comme ça, bêtement. Une espèce de coup de folie, un coup de folie, ça peut tomber sur tout le monde. Hein. D'ailleurs, ça m'a rendu malade comme un chien, et aujourd'hui, je n'ai pas fait de pain. Alors, dans le village, ça les a bien ennuyés, et je leur ai promis de leur en faire pour ce soir. Voilà la vérité.
Il va au pétrin et commence à brasser la pâte. Aurélie, qui pleure, se met à manger. D'abord, du bout des lèvres, et puis de bon appétit, parce qu'elle est jeune et qu'elle a faim. Elle le regarde longuement, puis arrive la scène mythique de la pomponnette. Tout à coup, le boulanger tourne la tête vers la petite porte qui conduit à la cave. Par la chatière, la chatte noire, la pomponnette, vient d'entrer. Le boulanger la regarde un instant et il prend un air sévère.
« Ah, te voilà, toi, hein ? Mais regarde-la, voilà la pomponnette. Garce, salope, ordure, c'est maintenant que tu reviens ?» Et le pauvre Pompon dit qu'il s'est fait un mauvais sendant que pendant ces 3 jours. Il tournait, il virait, il cherchait dans tous les coins. Plus malheureux qu'une pierre, il était. Et elle, pendant ce temps-là, avec son chat de gouttière, un inconnu, un bon à rien, un passant de clair de lune, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il avait de plus que lui?
Aurélie baisse la tête, elle répond « Rien ».
Toi, tu dis rien. Mais elle, si elle savait parler ou si elle n'avait pas honte, ou par pitié du vieux Pompon, elle me dirait, il était beau. Et qu'est-ce que ça veut dire, beau? Qu'est-ce que c'est, cette petite différence de l'un à l'autre? Tous les Chinois sont pareils, tous les Noirs se ressemblent, et parce que les lions sont plus forts que le lapin, ce n'est pas une raison pour que les lapines leur courent derrière en clignant de l'œil. Hein? Et la tendresse, alors, qu'est-ce que tu en fais? Dis, ton berger de gouttière, est-ce qu'il se réveillait la nuit pour te regarder dormir? Est-ce que si tu étais parti, il aurait laissé refroidir son four s'il avait été boulanger? Voilà, elle a vu l'assiette de lait, t'es l'assiette du pauvre Pompon. Dis, c'est pour ça que tu reviens. T'as eu faim, t'as eu froid, hein? Va, bois-lui son lait, ça lui fait plaisir. Dis, est-ce que tu repartiras encore ?
Aurélie répond, elle ne partira plus.
Parce que si tu as envie de repartir, il vaudrait mieux repartir tout de suite. Ça serait sûrement moins cruel. Hein ?
Aurélie répond, non, elle ne repartira plus, plus jamais. Elle s'est élancée vers lui. Elle baise la grosse main toute gluante de pâte, puis elle se blottit contre lui. Il va allumer le four, puis laisse Aurélie le faire.
Oh, ça serait bien, hein. Ça serait juste. Hein. Il s'éteint, quand tu t'en vas, tu l'allumes quand tu reviens. C'est naturel.
Le feu crépite, le boulanger regarde l'incendie, un peu de fumée vient dans le fournil. Le boulanger s'essuie les yeux et en riant, il dit...
Cette fumée, j'ai beau en avoir l'habitude, elle m'a toujours fait pleurer.
Et le rideau de fin tombe sur la femme du boulanger. Le film, la femme du boulanger, évite la caricature ou le jugement moral. Aurélie, la jeune femme infidèle, n'est ni diabolisée ni excusée. Elle est simplement montrée comme un être égaré à la recherche de passion dans un monde d'habitude. Pagnol ne condamne personne. Il observe avec bienveillance, mais aussi avec lucidité, la complexité des relations humaines. Au-delà de la comédie et du pittoresque, la femme du boulanger pose de véritables questions morales et sociales. Que vaut le pardon ? Comment réagit-on face à l'humiliation ? Faut-il mettre de côté sa fierté pour retrouver une forme de paix ? Aimable, au fond, ne demande pas vengeance. Il cherche à comprendre, à réparer sans condamner. Et sa grandeur d'âme, modeste mais réelle, donne au film une véritable portée humaniste. La femme du boulanger est une perle du cinéma français. Derrière sa simplicité apparente se cache une œuvre d'une grande finesse psychologique, sociale et morale. Pagnol y déploie tout son art, celui d'écouter les gens, de faire parler les silences, de capturer l'âme d'un village et de ses habitants. C'est un film profondément français, profondément humain et d'une modernité silencieuse. À une époque où le cinéma cherche souvent le spectaculaire, ce film rappelle que la grandeur peut se trouver dans un four à pain vide, dans un homme qui souffre en silence, dans un village qui pense ses blessures avec humour et tendresse. Merci Philippe, merci Bernard. Notre émission est maintenant terminée. La prochaine fois, nous parlerons de Marcel Pagnol avec Topaz. Notre émission est maintenant terminée. La citation du jour, il devrait être interdit de parler italien. Et surtout chanter en italien, parce que les hommes ne comprennent jamais l'italien et les femmes le comprennent toujours. Elle est d'Aimable Castagnier dans La femme du boulanger de Marcel Pagnol. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site de notre radio altitudefm.com et toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union régionale FNCTA, fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. Au 05 61 42 12 45, allez voir le théâtre amateur. C'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir.